J'aimerais maintenant vous lire juste la suite d'acte 9, les versets 19 à 31. C'est la fin, finalement, de cette histoire. Après, on passe à une autre histoire qui nous est racontée. C'est l'histoire de Pierre. Et puis, on reviendra par la suite à ce qu'a fait Saul de Tarse. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient « N'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là? N'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Messie. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le supprimer, mais leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de pouvoir le tuer. Cependant, une nuit, les disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille, assis dans une corbeille. Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car il ne croyait pas qu'il était un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Saul allait et venait avec eux de Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. L'ayant appris, les frères l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Paul, son avenir, sa mission, proclamer Jésus. Et on voit qu'il le fait aussitôt, hein. Saul se mit aussitôt à proclamer Jésus dans les synagogues. Il proclamait que Jésus est le Fils de Dieu. Et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits. Non seulement il proclamait que Jésus était le Fils de Dieu, mais aussi il affermissait, il encourageait. Hein. Et il le dit d'ailleurs, il nous invite aussi à encourager, à être encouragés. Dans 1 Thessaloniciens 4, il est dit « Vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous encourageons dans le Seigneur, progressez encore. Vous savez en effet quelles instructions nous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est notre progression dans la sainteté. » Et puis, il est dit « À vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires, à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. » Montrez aussi que Jésus est le Messie promis. Saul confondait les Juifs qui habitaient à Damas en leur démontrant que Jésus est le Messie. Mais parmi toutes ces prédications, en fait, il y avait une sacrée opposition, parce que les Juifs se concertaient pour le supprimer, pour lui enlever la vie. Et on gardait les portes, on l'empêchait, puisque les villes étaient fermées par des portes. On gardait les portes jour et nuit pour l'empêcher de se sauver, afin de pouvoir le tuer. Mais je me suis posé la question, quel est mon avenir, ma mission? Quel que soit mon âge d'ailleurs. Proclamer Jésus. Et pouvoir vivre ceci, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Être vraiment une lettre de Christ, comme dans le témoignage qu'on a lu. Une lettre qui parle par mes actes, une lettre qui parle par mes paroles. Et puis, nous sommes invités aussi à affermir et à encourager, à nous encourager les uns les autres. Dieu nous encourage d'abord. C'est vrai, il est dit, il dit d'ailleurs dans sa parole, « Ne sois pas effrayé car je suis avec toi. » Tu vis des circonstances difficiles, ne sois pas angoissé, car je suis ton Dieu. Tu doutes, je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Ça, c'est Ésaïe 41:10. Et puis, il est dit aussi, « Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu, le Père, pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez Dieu constamment. Dites-vous des psaumes. Encouragez-vous. Que la parole de Christ réside au milieu de vous, de toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. » Colossiens 3, 16. Et puis, on n'est pas seulement appelé à remercier Dieu, mais aussi à montrer, comme l'apôtre Paul, à montrer que Jésus est le Messie promis. Alors comment le faire? Ben, il y a des textes qui nous montrent. Il y a un texte d'Ésaïe qu'on connaît bien, 400 ans avant Jésus-Christ, un texte qui nous parle de Christ. On peut aussi dire ce que Christ a fait dans nos vies. Comment est-ce qu'on l'a rencontré? Et là, Ésaïe 53 est quand même très parlant. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur le Christ les fautes de nous tous. On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la tombent. Il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement. Et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sort? Lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants, il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis, à cause de mon péché. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge. Une mission, des oppositions, oui, des oppositions aussi pour nous. Mais Jésus a dit, il fallait que je vous dise tout cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, des circonstances difficiles, des oppositions. Mais il dit, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Et en conclusion, nous avons vraiment cet encouragement du Seigneur. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu et ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Jean 14. Oui Seigneur, nous voulons vraiment te louer parce que tu t'identifies à ton peuple. Et lorsqu'il y a opposition, Seigneur, il y a opposition avant tout à ta personne. Et Seigneur, merci parce que tu nous dis que tu es avec nous. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et Seigneur, à travers toute ta parole, nous voyons que tes serviteurs, ceux qui t'ont suivi, Seigneur, ont été accompagnés de ta grâce et de ta présence. Et Seigneur, j'aimerais te demander pour chacun d'entre nous, pour moi-même, que vraiment je puisse voir combien tu es présent à mes côtés, quelles que soient mes circonstances. Et Seigneur, j'aimerais t'apporter chacun d'entre nous, Seigneur, que vraiment tu nous accompagnes, tu nous gardes en toi, Seigneur. Seigneur, j'aimerais aussi t'apporter ceux qui ont défilé au marché samedi, Seigneur. Tu vois les contacts qu'il y a eu, tu vois les personnes qui ont posé des questions, qui se sont laissées interpeller. Seigneur, tu vois aussi peut-être les documents qui ont été laissés. Eh bien, Seigneur, que pour chacun, Seigneur, ce soit l'occasion d'une rencontre avec toi. Seigneur, qu'il voit ta lumière. Tu dis, je suis la lumière du monde. Eh bien, Seigneur, que cette révélation puisse rencontrer encore de nombreuses personnes aujourd'hui. Conduis-nous de ta grâce. Amen. Alors c'est Saul. Saul, ou Saul, en fait, il va changer de nom par la suite, il s'appellera Paul. Mais là, on le nomme comme étant Saul. Quant à Saul, qui était un pharisien, hein, qui était un juif, alors quant à Saul, il respirait toute la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'ils trouveraient, hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus, que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but rien. Or il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur !» Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas. Demande un dénommé Saul de Tarse. En effet, il prie et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein de pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit. Une fois rentré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Le présent est le passé de Saul de Tarse. Le passé, vous ne l'avez pas tout à fait ici, parce qu'avant cet épisode, Saul de Tarse avait approuvé le meurtre d'un disciple de Jésus, le meurtre d'Étienne. Il est dit dans Actes 7, verset 57, « Lors du meurtre d'Étienne, les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. » Et puis il est encore dit dans Actes 8, donc dans les deux chapitres qui précèdent, comment Saul de Tarse voyait les choses. Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. Et à partir de l'exécution d'Étienne, il est dit dans Actes 8, à partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. Quelques-uns pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église, allant de maison en maison pour arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. Il cherchait à détruire l'Église, allant de maison en maison. Donc, ce n'est pas nouveau. Paul, c'est un pharisien qui se conforme au rite d'un judaïsme extrêmement légaliste. Les pharisiens avaient une rigueur religieuse, et Jésus, d'ailleurs, leur reprochera d'annuler la parole de Dieu au profit de leur tradition. Jésus les traite d'hypocrites, qu'ils honorent Dieu des lèvres, mais que leur cœur est complètement éloigné de lui. Et puis, ils se tiennent aussi à l'écart des gens du peuple, des gens qui sont considérés comme des pécheurs, des ignorants. Ils veulent en tout cas pas s'approcher, que ce soit des notables ou des prêtres, qui leur apparaissent comme étant des infidèles, selon leurs critères. Ils sont zélés pour combattre tout ce qui leur paraît pas juste. Ils considèrent ça comme une hérésie tout de suite. Mais attention, c'est là où le bât blesse particulièrement. C'est l'état de leur cœur. Il y a un manque complet de compassion, de miséricorde, d'amour. D'ailleurs, il est dit que Saul respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il respirait. C'est quand même très fort. C'est dans son être intérieur. Il respire la menace et le meurtre. Et le présent de Saul de Tarse, ben vous voyez, persécuter l'Église. Saul se rendit chez le grand prêtre. Il va, il demande des lettres pour aller plus loin dans toutes les synagogues afin d'arrêter et puis d'amener à Jérusalem pour que les gens soient condamnés, pour que les disciples de Jésus soient condamnés. Il va avoir ce pouvoir de le faire et il va aller à Damas. Il est dit que Paul cherchait à détruire l'Église. Ça, c'est le problème de Saul. Mais que dit la parole concernant mon passé? Parce que j'ai aussi un passé. Et j'espère que c'est un passé. La Bible pose un diagnostic sur nos cœurs, sur mon cœur, sur le cœur de l'homme, qui est terrible. Il est dit notamment, dans Jérémie 17, « Le cœur est tortueux, plus que toute autre chose. Et il est incurable. Qui pourrait le connaître? Moi, l'Éternel, je sonde les cœurs, je scrute le tréfonds de l'être pour donner à chacun de lui ce que lui auront valu sa conduite et les effets de ses agissements. Le cœur est tortueux par-dessus tout. » Ça, j'ai pu le constater pour moi. Pour vous, c'est votre problème. Mais Dieu voit chacun. D'ailleurs, Jésus dira dans l'évangile de Matthieu, « C'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. Voilà ce qui rend l'homme impur. C'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées. » Et puis, l'apôtre Paul dira en Romains 3, 23, « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Même celui qui essaye de gagner le ciel par de bonnes actions, son péché le poursuit. Mais heureusement, il y a un arrêt sur image, une rencontre, une vie nouvelle. Il y a des questions, des interpellations, et parfois, on le voit là, un chemin qui peut être difficile. Je relis ce qui est dit dans Acte 9. Soudain, Saul fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu »« Qui es-tu, Seigneur ? » demanda-t-il. La voix reprit « Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi entre dans la ville et là, on te dira ce que tu dois faire. » Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus rien. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas, et il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni but. Saul comprend le message. D'ailleurs, c'est le seul qui a compris cette voix. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est ce que dit Jésus. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » C'est intéressant. Parce que Jésus s'identifie, en fait, aux disciples. Il ne dit pas « Pourquoi persécutes-tu mes disciples ? Pourquoi me persécutes-tu ? » Et c'est quelque chose de fondamental qu'on doit se rappeler et que tous ceux qui passent par la persécution ou lorsqu'on se moque de nous, c'est avant tout Jésus qui est touché. Et puis ça doit nous rappeler aussi un verset, « Je suis avec vous, hein, c'est Jésus qui parle, et moi, Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On voit que ce n'est pas des paroles en l'air, tout concorde. Tout concorde. Pourquoi me persécutes-tu ? Et on voit que Jésus, Dieu, est avec nous dans toutes nos circonstances. Et ça m'a rappelé simplement cette histoire dans le livre de Daniel. Daniel et ses compagnons, ils sont dans la fournaise, ils sont 3. Et pourtant, il y a quelque chose qui se passe d'absolument fabuleux. Je lis dans Daniel 3, hein, c'est le roi Nebuchadnezzar qui est saisi tout d'un coup de stupeur, et il dit, n'avons-nous pas jeté 3 hommes tous ligotés dans le feu, hein, parce qu'ils n'avaient pas voulu adorer le roi, on les a jetés dans un feu, dans une fournaise. Et ceux qui étaient autour du roi lui répondirent, bien sûr, majesté. Et le roi qui reprit, mais je vois 4 hommes sans lien, qui marche au milieu du feu sans subir aucun dommage corporel. J'en vois 4. Dieu était auprès de ces hommes. Dieu était auprès de ces 3 condamnés, persécutés. Et puis, lorsqu'Étienne est lapidé, qu'est-ce qu'il voit dans Acte 7 ? Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit encore, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Voir Dieu, voir Jésus-Christ dans nos circonstances. Et puis c'est vrai qu'il y a le chemin qui est difficile. Là, on voit que Saul, il est aveugle. Il a été interpellé par le Seigneur, mais le Seigneur l'a rendu aveugle. Et il doit être amené comme ça, dépendant, jusqu'à Damas. Et c'est là que Ananias, un disciple de Jésus, et ce sera intéressant, je ne vais pas m'arrêter sur Ananias aujourd'hui, mais c'est intéressant de s'arrêter sur Ananias parce que ce n'est pas un naïf. Il a entendu parler de Saul, qu'il ravageait l'église, etc. Puis tout d'un coup, il a une vision qu'il faut qu'il aille vers Saul de Tarse. Il interpelle le Seigneur. Il dit, ouais, mais ça ne me paraît pas très, très logique, cette histoire. Il est en train de nous ravager, nous détruire, et puis moi, je devrais aller faire quelque chose. Je vais te prier, ce n'est pas possible. Et on voit que ce n'est pas un naïf. Il pose des questions au Seigneur, et le Seigneur lui répond. Et là, il va à la rencontre de Saul de Tarse, et lui impose les mains, et au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul, et il vit de nouveau, une vision nouvelle. Jésus intervient et permet ce miracle pour qu'il y ait une vision nouvelle, un projet de vie, un regard vers l'avant. Alors, Saul se leva et fut baptisé. C'est un changement radical. D'ailleurs, son nom changera, hein, puisque ce sera Paul. Et Paul dira dans 2 Corinthiens 5, 17, « Ainsi celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. » Et ça, il l'a expérimenté. Une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Absolument fou, hein? Tout ce qui est ancien est passé, j'entre dans une vie nouvelle. L'Éternel gardera ton départ. Hein, ça, c'est le psaume 121. Ton départ et ton arrivée jusque dans sa présence. Ton départ. Après, on chemine. On chemine. Et l'apôtre Paul dira aussi, il dira, « En effet, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. En effet, j'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et là, j'aimerais simplement vous donner un témoignage qui a été relaté par une mission qui travaille dans des pays où c'est difficile de témoigner de Jésus-Christ. Et pourtant, il y a un témoignage. Et là, le titre de ce témoignage, c'est « Amour sans parole ». Ça ne veut pas dire qu'on ne leur a pas parlé. Et merci à ceux qui sont allés sur la place du marché pour donner des traités, des évangiles, une parole, et qui ont parlé. Mais là, c'est un amour sans parole parce que parfois, dans certains pays, c'est difficile. L'important séisme qui frappa le centre d'une grande ville d'un pays islamique, intégriste, où nous travaillons, ne dura que 11 secondes. 11 secondes durant lesquelles les vies et les possessions de plusieurs milliers de personnes furent anéanties. La destruction était horrible à voir. Une bombe traditionnelle n'aurait pas pu reproduire un tel chaos et supprimer tant de vies. En marchant à travers les ruines de ce qui, à peine quelques jours plus tôt, était encore une zone magnifique et accueillante. Tout ce que nous pouvions faire était de nous demander comment nous pourrions venir au secours des gens. Grâce à Dieu, en très peu de temps, notre organisation reçut une forte somme d'argent, car de toute l'Europe, les gens donnaient de leurs biens pour ceux qui avaient tout perdu, excepté leur vie. Au cours des premières semaines, en association avec d'autres organismes d'aide, nous avons distribué toutes sortes d'objets de première nécessité, tentes, couvertures, nourriture, nécessaires de toilette, etc. Puis, des organisations quittèrent le pays, mais la situation des gens était toujours extrêmement critique. De nombreux rescapés commencèrent à montrer des signes de profonde dépression une fois le premier choc passé. Nous sommes donc restés et nous avons continué de venir au secours de la population. Nous avons entrepris des activités qui auraient des effets plus durables pour les bénéficiaires et les aideraient à se reconstruire. Un jour, un homme dont la famille avait été particulièrement éprouvée par la catastrophe vint nous voir. Il avait perdu 17 membres de sa famille dans ce tremblement de terre. « Pourquoi faites-vous tout cela ?» nous demanda-t-il. « Même notre gouvernement ne nous vient pas en aide. » Et on ne voit nulle part nos chefs spirituels. Vous êtes venus d'un pays lointain pour nous secourir. Pourquoi le faites-vous? Ne sachant pas jusqu'à quel point nous pouvions parler librement, car des observateurs du gouvernement semblaient être partout, mon mari répondit, « Pourquoi ne pas chercher vous-même à répondre à cette question? Et quelle est votre conclusion ? Je pense que c'est l'amour de Jésus-Christ dans votre cœur qui vous a fait accomplir toutes ces actions en notre faveur. Ouais. Nous ne pouvions que répondre, vous avez parfaitement raison. C'est exactement cet amour qui nous pousse à faire cela de tout notre cœur. Il y a des moments où, en tant que chrétiens, nous avons le sentiment de ne pas avoir de message à communiquer lorsque nous ne pouvons pas parler de notre foi. Or, la réalité de Jésus-Christ en nous brille par ce que nous sommes. Je me demande pourquoi les incroyants sont plus prompts à se rendre compte que nous-mêmes. Un de nos collègues avait l'habitude de dire, nous proclamons toujours l'Évangile, mais nous n'utilisons très rarement des mots pour le faire dans ces pays fermés. C'est tirer au-delà des limites. Et c'est vrai que on voit que nos vies parlent. Et j'aime bien ce poster. Et ce poster, il m'a fait penser aussi à Frossy qu'on a perdu. Tu t'es parfumé. On répand le parfum de Christ. On répand le parfum de Christ. Et la semaine dernière, quand on a appris que Frossy était parti auprès de son Seigneur et Sauveur, on avait une de nos filles à la maison. Et elle nous dit, « Ouais, finalement, j'ai très peu connu Frossy. Mais il dégageait la bienveillance et la présence de Christ. » Eh bien, que nous puissions tous dégager, et que je puisse dégager la présence et la bienveillance de Christ. Mon arrêt sur image, ma rencontre, bah oui, je disais, quand Isabeau nous a parlé de sa rencontre avec le Seigneur, c'est un processus. On voit dans la parole de Dieu que certains, ça n'a pas été comme ça. On voit qu'il y a eu tout un processus, alors, plus ou moins long, mais on voit que c'est en chemin que les disciples d'Emmaüs ont saisi vraiment la grâce de Dieu. Il est dit, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Eux, ils parlaient de, simplement, Jésus a été crucifié. Mais Jésus était déjà ressuscité et fait route avec eux. Et là, il leur explique toutes les Écritures et tout ce qui lui concernait dans l'Ancien Testament. Et il parcourt comme ça, l'Ancien Testament, en leur expliquant. Et puis, là, ils arrivent, restent avec nous. Là, ils arrivent chez eux, à Emmaüs. Restent avec nous, parce que le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. Alors, il entre pour rester avec eux. Et pendant qu'ils étaient à table, il prit le pain. Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Un déclic. Et puis là, ce qui est merveilleux, c'est que ce déclic, ça donne des forces. Ils retournent à Jérusalem pour aller le dire aux autres. Et puis, il y a aussi un passage qui me parle énormément, c'est les 10 lépreux. Les 10 lépreux, ils demandent à Jésus d'être guéri. C'est dans Luc 17. Et puis, ils s'arrêtent comme ça à distance et ils se mettent à supplier, « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Et puis, Jésus leur dit, « Allez vers les prêtres et faites constater que vous serez guéris. » Donc, ils vont en chemin. Et là, il y en a un qui, en chemin, se rend compte, mais alors peut-être que les autres aussi, mais là, il prend pleinement conscience qu'il est guéri. Alors il revient sur ses pas. La première chose, il loue Dieu à pleine voix, à tue-tête, on dirait, presque. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne aux pieds de Jésus. Il le reconnaît comme étant Dieu. Il se prosterne, la face contre terre, et le remercie. Et on voit que là, il y a une prise de conscience aussi. Mon arrêt, un tête-à-tête avec Jésus, un besoin personnel d'être guéri de mon péché. Et il y a quelque chose qui est merveilleux, c'est ce texte de Michée, qui l'a dit, Michée 7, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Dieu ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. » Et il a dit, « Ô Dieu, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Et nos péchés sont jetés au fond de la mer. »